Et voici la main verte d'Alain Baraton. Bonjour mon cher Alain.
Bien le bonjour mon cher Eric, bonjour Patricia, bonjour à tous.
Alors on va parler ce matin du curcuma avec une première question. Qu'est-ce qui distingue le curcuma du curry?
Eh oui, cette question mérite d'être posée parce qu'elle se pose parfois et la réponse est simple. Le curry n'est pas constitué d'une seule plante mais d'un ensemble d'épices. Attention Eric, attention à ne pas se méprendre. Ce que l'on nomme aussi feuille de curry est en réalité le feuillage d'un arbre, le caloupilé, peut-être qu'un jour on aura l'occasion de parler de ce végétal. Le curcuma, lui, est obtenu uniquement à partir des rhizomes de la plante du même nom.
La plante de curcuma, à quoi ressemble-t-elle?
Alors, c'est en général une herbacée, je dis en général parce qu'il en existe une grande diversité, et elle peut atteindre un mètre de hauteur, et elle produit de grandes feuilles. Elle présente des fleurs en épis, celles-ci sont stériles, mais ce n'est pas un problème car cette vivace se multiplie à partir des fameux rhizomes.
Oui.
Des rhizomes qui se bouturent très très facilement.
Les rhizomes, on va rappeler ce que c'est, ce sont ces espèces de racines, de tiges qui sont sous la terre.
Tout à fait, vous faites bien de le préciser, des tiges souterraines, à ne pas confondre avec des racines.
Ce sont donc les rhizomes qui ont fait la réputation de la plante de curcuma.
Oui, depuis toujours Pline l'Ancien, c'est ce grand explorateur romain.
Il y a 2000 ans, je crois.
Oh là là, il y a 2000 ans, il qualifie déjà le curcuma de safran de terre. Aujourd'hui, cette épice est parfois surnommée le safran du pauvre. Avouez que ce n'est pas très joli, les temps changent. Alors le curcuma serait né en Inde, j'emploie le conditionnel, et a conquis toute l'Asie, une bonne partie de l'Afrique et bien sûr les Antilles où il est très apprécié dans la cuisine, la merveilleuse cuisine créole. Si le curcuma est une épice, il est aussi un colorant jaune et il fut longtemps utilisé, et ça je ne sais pas si vous le savez, et bien pour donner bonne mine au beurre, on l'a même utilisé parfois pour teinter la moutarde. Malheureusement tout ça c'est du passé, on préfère aujourd'hui souvent les produits un peu douteux pour donner des couleurs. Le curcuma est aussi, le curcuma est aussi considéré pour ses innombrables propriétés médicinales.
Est-ce que l'on peut cultiver le curcuma en France métropolitaine?
Alors là, je vais être prudent dans ma réponse, parce que quand je dis ce que j'avais prévu de vous dire, très difficilement, sauf en intérieur, si l'on a la main très verte et dans le jardin uniquement, dans les régions ensoleillées. Il y a toujours quelqu'un qui va me dire, mais pas du tout, moi j'ai un curcuma depuis 20 ans, il est magnifique, il est... Donc non, c'est une plante très complexe, mais il y a une variété ornementale, Alismatifolia pour être exact, qui est aussi appelée safran rose, tulipe de Siam ou encore tulipe thaïlandaise. Cette plante est magnifique, elle se plaît en pot ou dans un massif, mais attention, ce qu'on appelle le vrai massif d'été, elle est très appréciée pour ses fleurs roses en été. Alors pour ceux qui seraient tentés de s'en procurer, sachez que s'il est possible de placer la plante en situation mi-ombrée mais lumineuse, le curcuma décoratif, là je parle bien du décoratif, souffre sitôt la température en dessous de 10 degrés.
Et on va y arriver bientôt.
Oui, et autant vous dire que des régions de France qui ne connaissent pas des températures inférieures à 10, il n'y en a pas tant que ça.
Non, il n'y en a pas tant que ça. Et on s'en approche à grands pas ici. Vos questions, vos conseils aux auditrices et auditeurs de France Inter à propos des plantes et des fleurs, on va s'intéresser à la question de Josiane qui vous demande, Alain, quand faut-il planter les fritillaires impériales?
Oh, les fritillaires impériales, ce sont des plantes magnifiques, ce sont de grandes trompes en fait qui penchent vers le sol. Ce sont des plantes qui traditionnellement fleurissent à Pâques. Et d'ailleurs, on prétend que si elles fleurissent inclinées vers le sol, c'est qu'elles auraient fleuri pendant la crucifixion et depuis, rongées par la honte, elles s'inclinent vers le sol. Je trouve ça merveilleux. Eh bien, les fritillaires se plantent à l'automne maintenant. C'est maintenant qu'on peut les planter. Et à la deuxième question que vous seriez tenté de me poser, à quelle profondeur faut-il
planter? Et à quelle profondeur faut-il les planter?
Trois fois la hauteur du bulbe, ce n'est pas plus compliqué.
C'est simple comme Baraton. Marthe vous demande quelle est la meilleure terre pour les érables du Japon. Il y a très beaux érables avec les feuilles rouges. Oh.
Il y a l'érable du Japon, c'est un arbre, déjà je rappelle, un peu capricieux, qui n'aime pas les courants d'air, qui n'aime pas le gel, qui n'aime pas le vent. Attention, c'est pas une plante facile qui aime les situations ombrées, ne le mettez pas en plein soleil, ne rêvez pas. Et il est vrai que les érables du Japon prennent en hiver, enfin en automne, des couleurs à tomber à la renverse, des jaunes, des oranges, des rouges, absolument sublimes. Eh bien les érables du Japon, déjà qui ne se taillent pas, vivent dans la terre de bruyère, uniquement dans la terre de bruyère, protégée des rayons du soleil et protégée du gel. Si vous avez toutes ces conditions réunies que vous pourrez espérer en avoir, ça vaut cher à l'entretien, ça vaut cher à l'achat, mais qu'est-ce que c'est beau.
Oui, c'est magnifique. Béatrice vous demande si c'est le bon moment pour semer des lobélias.
Les lobélias, ce sont des plantes magnifiques, elles peuvent être cultivées en annuel ou en vivace, elles sont vraiment vraiment très très belles. On en met souvent dans des potées suspendues. Maintenant, ce sont des petites fleurs bleues, d'un bleu fort lumineux. On vous connaissait visuellement, mais c'est très dur à décrire une fleur, parce que c'est pas aussi simple.
Non.
Donc je vous répondrai que le lobélia se sème eh bien en mars, allez, on va dire mars-avril, pour être, voilà, donc oui, au printemps, pour faire plus simple.
À propos de l'hiver, Emma vous demande et si je protège mon pied de tomate du froid, va-t-il survivre à l'hiver?
Ben, elle est peut-être pas bête, cette question. Elle est peut-être pas bête, mais c'est pas aussi simple. La tomate, dans sa région d'origine, à savoir l'Amérique centrale, ouais, est une plante vivace. Donc, la tomate, au Pérou, par exemple, ou au Mexique, ne meurt pas avec l'arrivée de l'hiver. Mais l'hiver n'est pas aussi cruel que le nôtre, et il n'y a pas la même humidité. Si, aujourd'hui, dans votre jardin, vous laissez un pied de tomate, si vous protégez la tomate de plastique, de verre, même si vous mettez un petit chauffage, il y a fort à parier que l'humidité va déclencher la maladie. Donc, si vous avez une serre, oui, vous pouvez espérer garder une tomate, un pied de tomate, d'une année sur l'autre. Si vous n'avez pas de serre, oubliez, vous allez perdre du temps.
Avec le froid, rien ne sera gagné. Paul vous demande, alors on parle moins des plantes que des insectes là, le pince-oreille, est-ce qu'il pince vraiment les oreilles? Quel rapport avec les plantes d'ailleurs?
Eh bien justement, parce que le pince-oreille, c'est une petite bestiole qu'on trouve dans les potagers, et elle pince, elle se nourrit des fruits, et en particulier les abricots. Les oreilles d'abricot.
Les oreilles d'abricot. D'où
le nom
pince-oreille. C'est
simplement
bien une question de flore et non pas d'insectes. On termine avec un conseil balade, tiens, pour le week-end.
Je crois que dire que c'est la plus grande journée des plantes de France, ça ne serait pas excessif. Journée des plantes de Chantilly, c'est encore aujourd'hui et demain. C'est sur le domaine de Chantilly, dans ce château merveilleux. C'est dans la forêt de Chantilly, c'est dans l'Oise. C'est la plus belle, je trouve, fête des plantes de France.
La plus belle fête des plantes, selon Alain Baraton. Merci beaucoup, Alain, et à demain.
À demain.